J'espère que vous avez bien dormi, sans des cauchemars métaphysiques. C'est jamais, c'est quelquefois, ça peut revenir la nuit, sous forme de mythe. Alors, on va continuer. Je vois qu'il y a une question. Je lis tout de suite. La position de Sartre. L'homme n'est libre que si Dieu n'existe pas. Et position de l'existentialisme athée. Est-ce le même regard chez ceux qu'on appelle les existentialistes chrétiens? Exemple Gabriel Marcel. Comment résoudre la contradiction? Nous le verrons quand on abordera la métaphysique et le problème de Dieu, si vous voulez bien. Parce que c'est vraiment le problème métaphysique d'existence de Dieu, ça. Pourquoi sont-ce toujours les mêmes questions qui reviennent chez tous les philosophes? Parce que on a tous la même nature humaine. Et que le monde est le même pour tous. Et que nous avons un donné premier qu'on appelle notre nature. C'est pour ça qu'on peut se parler. Votre expérience est très différente de la mienne. Du moins, je présume. Elle est plus longue, la mienne. Alors on oppose génération à génération. À un certain niveau psychologique, je comprends. Au niveau philosophique, non. On se retrouve. La culture est différente selon les générations, selon les pays, l'Europe, l'Afrique, l'Asie. Et en Europe, la culture anglo-saxonne, la culture germanique, la culture française, la culture italienne. Donc, l'abordage est différent, la voie d'accès est différente, le comment est différent. Mais la recherche des principes est la même. Alors on se retrouve par rapport aux interrogations. Puisque l'interrogation, comme on le disait hier, implique un dépassement de l'intelligence à l'égard de l'expérience. Et le premier dépassement se fait par l'interrogation. C'est ça qui est si important dans l'interrogation. Vous savez bien, dans la recherche scientifique, l'hypothèse est capitale. Je voyais ça à Fribourg quand je côtoyais des étudiants en sciences, en physique et en chimie. Ils me disaient tous l'aspect capital de l'interrogation. Parce qu'ils partaient en recherche à partir d'une interrogation. Si le professeur leur donne une fausse hypothèse, il travaille 8 ans sans rien découvrir. Pas de thèse. Parce qu'une thèse demande d'être quand même positive et pas négative. Prouver qu'une hypothèse est fausse, ce n'est pas une thèse. C'est ça la chose tragique de l'hypothèse. En philosophie, les interrogations, si on arrive à bien les poser, relèvent de quelque chose de fondamental. Elles sont toujours vraies. Mais la difficulté, c'est de la dépasser. C'est très différent, vous voyez, comme cheminement. Et c'est très intéressant à comparer. Et que penser de la multitude des réponses? Ah oui, c'est normal. Que voulez-vous? Si vous allez jusqu'à l'Himalaya, voyez combien de fois vous pouvez vous arrêter en route. Si vous avez, comme on disait quand on était en Belgique, à Quin, au Solchoir, le plus grand mont, c'était le mont de la Très Sainte Trinité. Il avait 100 mètres. En face de l'Himalaya, petite souris, pas grand-chose. Alors, plus l'interrogation est profonde, et va loin, plus il y a des possibilités de réponse. La réponse est un arrêt. c'est simple à comprendre. Tandis que si vous prenez une interrogation du haut, du Mont Saint-Aubert, parce que ça s'appelait comme ça, le Mont de la Très Sainte Trinité, au milieu d'une plaine du Nord, 100 mètres, il y a beaucoup moins de réponses. Parce que c'est très horizontal. Pourquoi on aime l'horizontal ? Parce qu'il y a moins de réponses. La verticale, alors là, on peut s'arrêter. 100 fois. La science, elle, aboutit à des réponses définitives. Jamais. C'est jamais définitif en science. Vous croyez que c'est définitif? C'est jamais définitif. Une science, c'est tout le temps, quand vous regardez ce qu'on disait il y a 50 ans, 100 ans. Et les professeurs sont farouches dans les examens de biologie. Quand vous citez comme dernière solution celle qui a été donnée il y a 50 ans, mais mon cher ami, zéro. Vous n'avez pas la dernière découverte qui relativise tout. C'est de façon très nette quand on voit ça, quand on recherche, vous voyez, l'origine de l'homme par les ossements que vous découvrez. C'est extraordinaire. On émet à partir de là une nouvelle hypothèse, une nouvelle théorie, et la précédente devient fausse. Elle devient relative. On progresse lentement par des couches successives. Alors, c'est vrai qu'apparemment, les solutions philosophiques paraissent multiples. C'est très vrai. Parce que le philosophe, en tant que philosophe, veut toujours affirmer quelque chose d'absolu. Un tempérament philosophique, c'est un tempérament d'absolu. Le tempérament scientifique, c'est un tempérament relatif. C'est le comment, c'est pas le pourquoi. Là, Auguste Comte a raison. Et c'est très vrai que le philosophe croit tout de suite découvrir un absolu. Alors, en tant qu'il découvre un absolu, il ne veut pas bouger. C'est très difficile de convertir un philosophe. Les savants s'entendent entre eux parce que c'est plus relatif. Mais il faut voir même, entre savants, je connais très bien le professeur Marois qui a fondé l'Institut de la vie. Et il me dit que plus on avance, plus les savants ont de la peine de s'entendre entre eux. C'est la tour de Babel. Parce que justement, plus on avance, plus on croit trouver quelque chose qui va tenir. Et on a un langage propre que le savant d'à côté comprend difficilement. Il n'y a pas d'absolu en science. Il y a des lois. Et les lois sont relatives. Elles tiennent tant que une expérimentation montre que c'est pas juste. Alors on recommence. Alors les théories se mêlent et une théorie appelle une autre théorie. Et c'est dans ce sens-là qu'on a le danger de tomber dans le scepticisme. Il n'y a plus de vérité. Oui, il y a une vérité. Mais il faut chaque fois mesurer exactement ce que signifie cette vérité. La manière dont vous avez découvert cette vérité. Donc l'aspect critique est toujours présent. J'ai pris tel instrument et j'ai découvert telle chose. Et c'est en fonction de l'instrument que vous avez découvert telle chose. En fonction de telle circonstance d'expérimentation. Et c'est ça qui donne la valeur de vérité à cette conclusion. Vous avez relié cause finale et utilisation. Peut-on étendre le lien de la cause finale à la fonction? C'est le passage du pourquoi au comment. Et j'ai dit qu'il n'y avait pas de comment dans la finale, c'est dans la cause finale. Mais il y a une application. Vous voyez? Alors faisons attention, j'ai relié, j'ai dit que je ce point de vue-là, c'est une fin au niveau de mon travail. Je peux dire, en ayant fait un outil, je m'arrête, cet outil est parfait. Puis après, on l'utilise. Et c'est deux aspects tout à fait différents. L'un finalise le travail, l'autre va être utilisé dans un autre travail. En ce sens alors, par exemple, la fonction n'est jamais causale. La fonction du vivant serait de vivre. Cause finale. La fonction du vivant serait de vivre. Le vivant vit, mais le vivant a une cause finale qui lui est propre selon les degrés de vie. Et la fonction, au sens rigoureux, n'existe qu'au niveau de l'intelligence. Au niveau de la vie végétative, c'est très difficile. La finalité de la vie végétative, c'est la procréation. Pour l'animal, l'homme peut la dépasser. Alors, on voit très bien que dans la vie animale, fonction et finalité sont quand même distinctes. Au niveau de la vie. Puisque la fonction reste toujours à un niveau d'utilisation. Tandis que la finalité a quelque chose de beaucoup plus immanent. Donc je ne peux pas dire que la fonction du vivant, c'est de vivre. La fonction du vivant, c'est de vivre de telle manière. Alors là, oui, telle manière, le comment. Mais c'est pas de vivre, de court. Tandis que sa finalité, c'est de survivre. Parce que l'animal est corruptible. Donc si l'animal est corruptible, il faut qu'il survive. Et il peut survivre par la procréation. Et il survit par la procréation, par la génération. Nous avions donc, hier, essayé de bien préciser le point de départ, l'expérience, au sens fort, l'expérience, la plus expérience qui soit. Il y a du plus et du moins dans l'expérience. On est plus ou moins sensible, on est plus ou moins attentif, notre intelligence est plus ou moins éveillée. Or, dans toute expérience, l'intelligence est présente. Au sens strict, l'animal n'a pas d'expérience. C'est l'instinct. Mais l'instinct ne donne pas d'expérience. L'expérience est humaine. Je veux être attentif. Je veux regarder. Je veux comprendre. Il y a toujours ça dans l'expérience. Donc, j'allais dire, plus votre intelligence progresse, plus vous êtes capable de rencontrer la réalité autre que vous. L'homme, la nature, le vivant. On a une capacité très différente. Si on pouvait mesurer ça, ce serait très intéressant. On aurait 5 groupes. Le groupe des gens très capables d'expérience, parce que leur intelligence est très développée. C'est mon intelligence qui me rend attentif et réceptif. L'intelligence est premièrement réceptive. Ça, et ça donne à mes sens la capacité de réceptivité, de recevoir la réalité. C'est ça un être intelligent. Il est à l'écoute de la réalité autre que lui. Et l'expérience vient combler cette écoute. Mais s'il n'y a pas cette écoute, il n'y aura pas d'expérience. Je passerai à toute vitesse. Et alors c'est l'aspect systématique de la vie qui l'emporte. L'aspect a priori. C'est jamais du recuit. C'est toujours nouveau, l'expérience. Et à partir de l'admiration et de l'expérience, l'interrogation. L'interrogation est une chose extrêmement importante, puisque c'est le moment où l'intelligence le sensible pour saisir dans la réalité expérimentée ce qu'elle est. L'interrogation est toujours consciente. Il y a des consciences d'une intelligence qui est capable de dépasser le sensible. C'est pour ça que l'idéaliste n'interroge plus. Parce qu'il sait. En tant qu'idéaliste, il reste dans ses idées. Quand j'ai l'idée d'une chose, je n'interroge plus, je poursuis. Quelqu'un qui ne sait plus écouter parce qu'il n'a plus d'expérience, il n'interroge plus. Il devient systématique. Tandis que l'interrogation me met dans cette attitude de celui qui sait qu'il ne sait pas. Et il veut savoir. C'est complexe l'interrogation. Il sait qu'il ne sait pas et il veut savoir. Et il veut savoir par rapport à cette réalité expérimentée. Il veut l'analyser. Et grâce à l'interrogation, il l'analyse. Et par l'interrogation, il peut l'analyser. Mais l'analyser philosophiquement, sans instrument. Quand j'analyse avec un bistouri, ce n'est plus le point de vue strictement philosophique, c'est le point de vue tout à fait pratique de l'application du chirurgien et de l'artiste. L'artiste a des outils, le philosophe n'a pas d'outils. Il faut que ce soit l'intelligence elle-même qui interroge et qui analyse. Pour garder le contact direct, l'outil étant toujours une médiation, et donc m'empêche d'avoir ce contact direct avec la réalité. Et le philosophe veut ce contact direct avec la réalité. Parce qu'il sait que c'est la réalité comme telle qui l'enseigne, qui le détermine, qui le spécifie. Donc, dans l'interrogation, j'ai conscience de l'orientation profonde que je prends. Dans l'interrogation, il y a un choix. J'interroge de telle manière. Et je sais que ces interrogations vont revenir à la réalité pour découvrir dans la réalité ce que je cherche, qui est, dans le langage moderne, on dirait, qui est thématisé par l'interrogation. L'interrogation thématise, c'est-à-dire qu'elle oriente dans tel sens. C'est pour ça que c'est l'image de l'arc tendu avec la flèche qui veut saisir un but. C'est ça celui qui interroge. Platon donne l'image du chien de chasse. C'est une autre image. Mais c'est aussi très joli. Le chien de chasse en arrêt devant le lapin qui est dans le fourré. Il est là. Il est caché. Mais il est là. Alors il interroge. Il se met en arrêt. Et c'est vrai qu'une intelligence qui interroge est en arrêt. Elle attend. Mais elle attend en interrogeant. Donc elle attend d'une façon active. Ce n'est pas une attente réceptive, l'interrogation. Il y a deux grands moments tout à fait différents. L'expérience, c'est la réceptivité. Tandis qu'au contraire, dans l'interrogation, c'est l'intelligence active qui veut chercher et qui veut aller jusqu'au bout. Celui qui interroge va jusqu'au bout et fait une enquête. Toute enquête implique une interrogation. Celui qui veut trouver, dans l'ordre pratique, c'est très net, hein, vous soupçonnez, vous dites, il y a toujours un soupçon. C'est pour ça que c'est toujours désagréable. Une enquête d'un policier, c'est pas agréable. Je crois que vous êtes un criminel. Je vais voir s'il n'y a pas des traces de ça. Et dans toute cherche comme ça, il y a toujours ce côté désagréable parce qu'il y a un soupçon. C'est pour ça que ça peut sembler, voyez, anti-charitable. Il y a un soupçon. S'il n'y avait pas de soupçon, je ne chercherais pas. Ça, c'est d'ordre pratique, hein, l'enquête. C'est d'ordre moral. Au point de vue de l'intelligence. L'intelligence interroge, non pas à partir du soupçon, mais à partir de l'ignorance. Mais l'ignorance, dans l'ordre pratique, est toujours présente dans le soupçon. Vous soupçonnez quelqu'un d'avoir fait un crime parce que vous ne le savez pas. Si vous saviez, il n'y aurait pas de soupçon. Vous auriez conclu. Donc tout soupçon, je dis ça, c'est parce qu'on parle de la philosophie du soupçon, n'est-ce pas, aujourd'hui. C'est d'ordre pratique, ça. Vous avez l'expérience de soupçonner quelqu'un. Il y a eu un crime cette nuit. Vous l'avez entendu, il y a eu un crime cette nuit. Ça a fait beaucoup de pétards. Et vous avez vu quelqu'un qui venait de vitesse. Je me souviens, c'était un moment des grèves, c'était très curieux. Il y avait... des grèves et certains trains partaient, les trains internationaux partaient, mais partaient avec des volontaires. Et les grévistes étaient contre. C'était un train de nuit. Je partais pour la Suisse. Et j'ai, en montant dans tel compartiment, j'ai soupçonné que tel et tel individu était là, des grévistes. Qui voulaient à tout prix vont arrêter le départ d'une manière ou d'une autre. Alors, le train est parti au moment où il commençait à avoir sa vitesse. Signal d'alarme. Alors je n'ai pas vu tirer le signal d'alarme, mais ce que j'ai vu, c'est que dès que le train s'est mis à arrêter, il a commencé à s'arrêter, il a ouvert la porte du fiche-camp, et c'était deux. Là, on a des petits signes. On fait une enquête. Je n'ai pas poursuivi, hein, parce que je n'étais pas là pour ça. Je ne faisais pas partie de la police. Mais on voit tout de suite des petits indices comme ça. Parce que si c'était des voyageurs normaux, ils seraient restés. Hein. Parce qu'on a vu, hein, vous savez bien, quand il y a un signal d'alarme, le train s'arrête automatiquement. Mais tant qu'on n'a pas découvert à tel endroit, le train ne peut pas repartir. Tout est bloqué. Alors c'était dans le compartiment à côté, c'était pas moi. C'est le compartiment à côté. Mais, on voit très bien ce que c'est que le soupçon. C'est important de savoir ce que c'est que le soupçon. Le soupçon enlève la confiance. Il n'y a plus de confiance dès qu'il y a un soupçon. Ça enlève la confiance et on fait l'enquête. Et on fait l'enquête toujours d'une façon cachée. Pas les policiers officiels qui font l'enquête. Oui, essayez de comprendre tout ça pour saisir ce que représente une intelligence en arrêt qui veut connaître. La curiosité intellectuelle, je veux savoir. La curiosité intellectuelle est bonne, la curiosité affective est mauvaise. Mais la curiosité intellectuelle est bonne, c'est l'intelligence qui veut savoir. Et tant que l'intelligence n'est pas dans cet appétit de savoir, il n'y a pas d'interrogation. Alors, on voit les orientations différentes de l'intelligence par les grandes interrogations. Je n'ai pas le temps de critiquer les 5 interrogations ou les 6 interrogations, mais c'est très important de les critiquer pour se poser la question, y a-t-il d'autres interrogations ? Une fois qu'on fait la critique de ces interrogations, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas d'autres. Cherchez bien, vous n'en trouverez pas d'autres. Il y en a 6. Et ça, c'est très la structure de l'intelligence. Je fais cette enquête pour voir que, de fait, ces diverses interrogations me mettent sur le point de vue de l'induction. On induit que grâce à l'interrogation. Et l'induction me met en présence des premiers dans l'ordre de l'activité morale, le premier, ainsi de suite. Et la philosophie peut commencer à partir du l'expérience du travail. Je crois que tout homme a l'expérience du travail. Et c'est pour ça que je commencerai ma philosophie par l'expérience du travail. Pas à cause du marxisme. Et le marxisme a existé parce que, de fait, on n'avait pas, dans une philosophie réaliste, fait la philosophie du travail. Cherchez bien. Vous verrez que la philosophie du travail ne se fait que depuis très peu de temps. On avait laissé le travail aux moines. C'est très curieux. Alors que l'expérience du travail est l'expérience la plus commune de tous les hommes. Si vous essayez de noter et de compter le temps de travail que vous avez dans votre vie humaine, vous auriez un équilibre entre le sommeil et le travail. 8 heures de sommeil pour beaucoup dans l'humanité, 7 heures de sommeil, 6 heures de sommeil, 5 heures de sommeil chez les quelques qui sont très tendus. Le travail, 8 heures, 9 heures, 10 heures, pendant la journée. Si vous travaillez pour vous, si vous travaillez avec un contrat, le minimum. C'est très curieux, ça. Hein? Mais ordinairement, à côté du travail, qui est fait par un contrat, il y a le travail personnel. Pas des oisifs. N'aime pas. Oisiveté, on le sait très bien, c'est la mère de tous les vices. Un homme qui est une femme encore plus, elle n'aime pas des oisifs. Elle fait toujours quelque chose. Elle découvre tout le temps du travail. C'est extraordinaire. Vous voyez, la catastrophe chez les hommes. Quand ils sont à la retraite, il y a une secousse. Parce qu'à ce moment-là, ils n'ont plus ce travail auquel ils étaient habitués. Alors, il faut comprendre que l'expérience du travail est extrêmement diverse. Et c'est l'expérience humaine la plus typique. Ça, je peux le dire qu'après avoir comparé cette expérience à toutes les autres expériences, c'est l'expérience qui mobilise tout l'homme. Quand je dis que l'expérience du travail est l'expérience humaine la plus parfaite, je me pose la question, est-ce qu'un animal travaille ? Ce bœuf du travail, ce cheval qui travaille, est-ce que le tracteur travaille ? Est-ce que la machine travaille ? Est-ce que le TGV travaille ? Est-ce que l'auto travaille ? Ou elle est fatiguée cette... Mais un animal travaille plus que l'auto. Normalement, quand vous avez un bon cheval qui a trotté toute la journée, le soir, vous le caressez, bonne bête, merveilleux, tu as fait ton travail merveilleusement, faites pas ça pour l'auto. Un bon moteur, il n'a pas besoin de caresse. Tandis que l'animal en a besoin. Et le compagnon de travail en a encore beaucoup plus besoin. Ah, nous avons fait ça. Le coup de chien, vous savez, faut à tout prix terminer ce travail à la fin. Alors, on est mobilisé, au-delà de tout contrat. Voir la diversité du travail. Pendant la guerre, on donnait des cartes de travailleurs, sauf aux intellectuels. Les intellectuels n'avaient pas de carte de travailleurs. Et ordinairement, les intellectuels, on ne compte pas leur travail. C'est curieux, alors que c'est un travail. Un philosophe devrait travailler plus que tous les autres. Mais un travail intellectuel. La recherche intellectuelle est un travail. La méditation. voir si tout va bien, si tout marche bien. C'est le surveillant. Et de plus en plus, il y a des surveillants. L'humanité terminera par des surveillants. Le pion. Hein, le pion, c'est agréable. Surveille une étude. Est-ce qu'il travaille, celui qui est le pion, qui surveille une étude? Drôle de travail. Hein. Celui qui est en arrêt, le chien de chasse en arrêt, qui attend le gibier. Il attend quoi, le gibier? Il attend celui qui va être en faute. C'est pour ça qu'au bout d'un certain temps, le pion, ça devient un pion. Et il ne voit plus que le mal. Il y a des gens comme ça. Ils sont en arrêt pour dépister des choses qui sont mauvaises. C'est pas une vie. Hein. Le gendarme, il travaille. Mais il travaille drôlement. Saisir ce briquet. Vous voyez, donc, il faut d'abord étendre cette expérience du travail à toutes les diversités du travail. Et c'est très intéressant de faire ça. Parce qu'on découvre des tas de choses auxquelles on n'avait pas pensé du tout. L'expérience du travail est très, très vaste. Parler à un gendarme sympathique. Parler à un gendarme ami. Et les gros gendarmes, leur moto qui peuvent dépasser toute espèce de vitesse. C'est pas le petit gendarme planté, mais le gendarme qui est vraiment le gendarme. Le policier qui cherche les brigands. Et parler avec eux, ils ont une mentalité très particulière. C'est très curieux. Parce qu'ils cherchent le plus d'amende possible. Oh, la récolte des amendes. Mais ils travaillent quand même. Et le fruit. C'est ça. Je réfléchis sur la diversité du travail et j'essaie de trouver quel est le travail le plus typique, le plus humain. Ça, c'est une enquête très intéressante. Vous voyez, l'expérience implique là toute une réflexion dans la diversité. Le vrai chef consiste à celui qui a fait tout pour arriver à la tête. Celui qui n'a pas fait l'expérience de tout ne peut pas être un véritable chef. Il doit avoir passé par tous les différents moments du travail. Le travail en chaîne. Et le contrôleur. Le contrôleur, tu as bien travaillé aujourd'hui. Hein. Alors, il lui compte son travail en fonction de toutes les amendes. Hein. C'est la même chose. Toujours, c'est très curieux. Ça. L'humanité est surveillée. Je crois que le travail type, c'est le travail de l'artisan. Au plan philosophique, le travail le plus humain. Parce que le gros problème philosophique, c'est d'essayer de comprendre comment le travail est nécessairement humain. Un travail qui n'est plus humain n'est plus un travail. On dira que c'est du boulot. Ce n'est plus du travail. Le travail est essentiellement humain. C'est déjà très intéressant au point de vue philosophique de voir ça. Et c'est pas si commode. Hein. Et de relever à ce moment-là toutes les théories qui disent l'inverse. C'est pour ça que le cheval, le bœuf, travaille métaphoriquement. Et la machine travaille métaphoriquement. Et j'en arrive progressivement, il faut le décrire, que le travail le plus humain, c'est le travail de l'artisan. Et c'est là où on découvre toute la complexité et la plénitude du travail. Un charpentier, un vrai charpentier, c'est un travail qui implique une sorte d'inspiration. projet, il faut une certaine inspiration. Et on cherche à incarner, à réaliser cette inspiration. Un vrai charpentier, c'est ce qu'il fait. Pas celui seulement qui travaille pour faire tout le temps des planches. Il fait autre chose, il réalise une œuvre. Le travail étant donné à une œuvre. Mais l'expérience du travail, c'est capital pour ça. Et voir quelle est l'expérience la plus humaine, le travail le plus humain. Et à partir de là, j'analyse qu'est-ce que c'est que le travail. Qu'est-ce que c'est que le travail humain? Qu'est-ce que ça représente? Quel est en vue de quoi? Vous voyez, c'est à l'égard de cette expérience du travail que vos interrogations sont les plus faciles à comprendre. Parce que c'est l'expérience la plus humaine. Je dis bien l'expérience la plus humaine et la plus quantitative. L'homme est un travailleur. En vue de quoi je travaille? La finalité. En vue d'une œuvre. Quand vous ne savez plus en vue de quoi vous travaillez, votre travail n'est plus humain. Et vous fatiguez. C'est la finalité qui me donne la force de travailler. Quand il n'y a plus cette finalité en acte, vous ne savez plus. Et puis votre travail est sur une matière. Vous coopérez avec quelque chose qui n'est pas de vous. La matière. Et vous choisissez des outils. Et vous essayez, à ce moment-là, de faire que votre idée puisse se réaliser à travers cette matière pour réaliser l'œuvre. pose cette question par rapport à l'expérience du travail le plus humain, celui de l'artisan. N'y a-t-il pas aujourd'hui un aspect nouveau qui est celui de la rentabilité nécessaire? Je suis tout à fait d'accord, mais c'est secondaire. Vous voyez, c'est une modalité particulière, c'est lié au travail. Ce que le philosophe cherche, c'est savoir qu'est-ce que c'est que le travail comme opération humaine. C'est une opération typiquement humaine. Alors, parmi les propriétés, les nécessités du travail, les conséquences, il y aura ce point de vue-là. Mais ce n'est pas directement... Vous voyez, je ne travaille pas pour la rentabilité. Mais la rentabilité est nécessaire comme travail, du moins est une des propriétés du travail, un des aspects du travail. Pourquoi je travaille? Vous voyez, le pourquoi. Elle va me dire, oh, je travaille pour gagner ma vie. Oui, mais ce n'est pas cela qu'on regarde le philosophe. Que ce soit de fait une obligation de travailler pour gagner ma vie, c'est sûr. Mais ce n'est pas ça le travail. Vous voyez, donc, le travail a une complexité énorme, puisque c'est propre à l'homme qui saisit l'homme dans tout ce qu'il est. Donc, son intelligence, son cœur et ses mains, son intelligence, sa sensibilité. Il travaille dans un milieu donné. Il travaille avec une coopération possible, la solidarité. Le problème de la solidarité aujourd'hui est-elle liée au travail ou est-elle liée à l'éthique? On viendra là-dessus, hein. Mais j'ai dit que la première expérience est le travail. Cette expérience du travail me mettra en présence d'une des dimensions humaines. L'activité de l'homme qui transforme la matière. Je suis en face d'une activité particulière qui est ordonnée à une œuvre. Le travail est toujours ordonné à une œuvre. Traditionnellement, je rejoins là l'étude du facere. Très difficile à traduire, parce que si vous traduisez le faire, j'aime mieux dire activité humaine qui transforme la matière, une matière en vue d'une œuvre. Le travail implique tout ça. Qu'est-ce que c'est que le travail? Activité humaine qui transforme une matière en vue d'une œuvre. Vous voyez, bricoler, est-ce que c'est travailler? C'est une manière de travail. Il y a le travail rendable et puis il y a le travail qu'on peut faire qui me détend. Votre vie en Londres, vous savez, quand pape, Jean XXIII était nommé pape. On a cherché des parents, des cousins, des oncles dans le midi de la France, des Italiens qui travaillaient en France. Puis on leur a posé cette question. Ça passait à la télévision alors. On leur a posé cette question. Quel est le violon d'Ingres de votre oncle, de votre cousin? Qu'est-ce que c'est que violon d'Ingres? Un bon italien dit, qu'est-ce que c'est que violon d'Ingres? Mais oui, quand il est fatigué, qu'il veut se détendre, un travail qui lui plaît, qui fait ça par pure détente. Ah, oui, bon, ah. Je crois bien que son violon d'Ingres, c'est l'Église. C'est merveilleux. Ça sortait, ils ne voyaient pas ce qu'ils disaient très bien, mais ils exprimer que la détente, mais oui, c'était là où il aimait le mieux travailler pour l'église. Le violondingue du sacristain. Un vieux sacristain. Des sacristains comme on ne les fait plus aujourd'hui. Un vieux sacristain. Il loge presque dans sa sacristie. Ce violondingue, c'est quoi? Ben oui, c'est la propreté de l'église. C'est les chandeliers. C'est raccommoder l'encensoir. C'est ça, le violondingue. Pendant le temps qu'il avait fait ça. Mais c'est la sacristie. Mais ça, c'est merveilleux. Quand le lieu du travail devient le violondingue, devient le lieu de la détente. Tout travail humain devrait ça. Et c'est vrai. Moi, ce qui me détend, c'est de faire de la philosophie et de la métaphysique. Mon violondingue, la métaphysique. Parce que c'est ça qui détend. Parce qu'on est tellement habitué à ce travail que c'est ça qui vous détend. Alors à ce moment-là, le violondingue devient le travail même qu'on fait. Quand il y a une trop grande distance entre les deux, ça prouve que le travail n'est pas totalement humain. Le jeu, c'est un travail. Ah, le jeu compétitif devient un travail laborieux et tout ça. Et autrement, le jeu, c'est un travail. Mais c'est un travail très particulier. Parce qu'au fond, dans le jeu, vous ne travaillez, vous ne transformez pas une matière. C'est immanent. Mais c'est quand même un travail. Alors, vous voyez, ce qu'il faut, c'est comprendre que cette activité, c'est la transformation de l'univers. C'est quand même très particulier. On aboutit à une œuvre. Cette œuvre, elle est ou utile, ou agréable, ou une œuvre qui sont les petits pois. L'alimentation. Les conserves. Ça prend de plus en plus de place, les conserves. Bientôt, les hommes et le monde ne vivra que de conserves. Industrialiser la récolte, les conserves. C'est une œuvre. Est-il agréable, petit pois? À tous les niveaux, les petits pois agréables à manger, les petits pois purement utiles, qui sont détestables, mais c'est nourrissant. L'œuvre artisanale par excellence, c'est le boulanger. Il y aurait là quelque chose d'extrêmement intéressant à voir, c'est que l'œuvre, par excellence, c'est le pain et c'est le vin. C'est-à-dire, ben oui, vous êtes motivé là, vous êtes a priori, l'Eucharistie, pain et vin. Oui, c'est très vrai. Mais c'est une recherche que j'ai faite. L'œuvre, par excellence, c'est le pain et le vin. C'est l'œuvre la plus humaine, la plus indispensable. Alors évidemment, dans les pains, dans les pays où le pain, il n'y a plus de pain, c'est le riz. Mais il n'y a pas de vin là. Il y a des analogues au vin. Il y a des analogues au pain. Mais c'est l'aliment nécessaire ou l'aliment agréable, les deux extrêmes. Un mendiant qui demande du vin, vous hésitez à sortir une bonne bouteille. Parce qu'il sent déjà le vin à 10h du matin, au second cours. Après le petit déjeuner rapide du matin, c'est la bouteille. Oui, pour vous donner un peu de cœur, quoi. S'il n'y avait pas le vin, le cœur n'y est pas. Vous voyez, utile, agréable, ce qui est nécessaire à vivre. Et c'est ça, le travail humain. Permettre à l'homme de vivre. Et c'est là où le travail est parfaitement lui-même. Vous voyez, ça, c'est très intéressant au plan philosophique de voir que le travail par excellence, c'est un travail artisanal. Et la différence entre le vin et le lait. Oh, c'est très intéressant. connaissais quelqu'un qui avait 1000 vaches et qui m'a demandé de faire la charte du lait. Point de vue philosophique. C'était très intéressant. Pourquoi Jésus n'a pas pris du lait? Il a pris du vin. Il y a des raisons philosophiques qu'il faut découvrir. Bon, nous on pense aux machines allemandes, traditions religieuses. Oui, mais ces traditions religieuses, si elles sont vraies, elles reposent sur le travail de l'homme. Et le travail type de l'homme. Mais, alors, encore une fois, ça c'est des recherches à faire. Pourquoi le vin et pas le lait? Du lait pasteurisé. Hein. Dernière découverte de l'homme. Parce que on travaille la bête, on trait, mais maintenant on trait mécaniquement. Quand on a 1000 vaches, que voulez-vous? Le trait des 1000 vaches, ça représente un travail. Et ce lait, il faut le conserver. On n'aura plus jamais du lait pur. Il sera pasteurisé. Et ainsi de suite. Bon, c'est pour vous montrer tout ce que représente cette enquête philosophique sur le travail. C'est capital pour nous. Et je dis bien, c'est la première expérience. C'est pour ça que toute philosophie réaliste commence par la philosophie du travail. Alors ça, c'est très intéressant parce que tout de suite, je suis en face de la praxis de Marx. Et montrer que la praxis de Marx, c'est une idéologie du travail. Tandis que je veux faire une philosophie du travail. Et c'est pas la même chose de faire une idéologie du travail et une philosophie du travail. Dans une philosophie du travail, je montre le caractère humain du travail. Seconde grande expérience. La seconde. L'amour d'amitié, c'est l'adhérer, selon la tradition, fatcherer et l'adhérer, les deux grandes activités humaines, l'agir éthique. Vous savez bien, un des problèmes les plus difficiles aujourd'hui, c'est de pouvoir faire une vraie philosophie morale, éthique. Alors là, il y a une topique extraordinaire à faire, une topique historique, de voir aujourd'hui où se situe la philosophie éthique. La philosophie morale. Là, vous voyez qu'il y a toutes les gammes. Vous avez une philosophie éthique, moralisante. Vous avez une philosophie éthique qui est entièrement commandée par le fatuéré. Vous avez une philosophie éthique commandée par la science biologique. Il faut trouver une philosophie éthique humaine. C'est l'homme qui agit moralement. La bête n'agit pas moralement. Quand Mono dit, c'est intéressant, dans les rencontres internationales, que éduquer un petit enfant, c'est exactement la même chose que de dresser un chat. Je dis ça. On voit qu'il n'a pas beaucoup dressé de chat. Ni d'éduquer d'enfants. Un enfant, c'est un petit homme. Et on doit l'éduquer en vue de réaliser en lui une personne. Tandis que je n'ai jamais vu une personne chez le chat. On a fait des concours. petits-enfants. École maternelle. On ne mettait pas ça sur la porte d'entrée. On aurait pu mettre école maternelle, singes et enfants. Des petits singes. Des petits singes balois. Et des petits-enfants balois. On les a mis ensemble. Alors qu'est-ce qu'on a vu ? C'est déjà vieux, ça. C'est déjà, il y a déjà un certain nombre d'années. J'enseignais à Fribourg à ce moment-là. C'est des choses qui sont curieuses. Je n'oserais jamais faire ça. Je ne sais pas si on a la permission, du reste. Je ne sais pas si c'est légitime de faire ça. De mettre un petit enfant toujours dans sa première communication avec un petit singe. Puisque psychologiquement, on sait que les trois premières années sont capitales pour la psychologie. Donc pour la formation de la personne humaine. Je ne sais pas ce que sont devenus ces enfants, ça m'a intéressé. Toujours est-il que les six premiers mois, prix d'excellence du petit singe, et à partir de 6 mois ou 7 mois, l'enfant dépassait le petit singe. Autrement dit, on voit très bien comment l'enfant a une complexe, l'enfant, homme, a une complexité bien plus grande que l'animal le plus évolué. Et donc, c'est pas étonnant qu'il mette plus de temps à essayer de découvrir son autonomie. L'autonomie du singe est très relative. Elle est vite faite. L'autonomie d'une personne humaine, elle est longue. Et elle s'acquiert toujours. Il y a l'éducation. Il y a l'auto-éducation. Et celui qui n'est pas dans cette auto-éducation n'arrivera jamais à éduquer. Il faut s'éduquer soi-même. Et cette auto-éducation, elle est constante. Vous ne pouvez pas dire, à partir de tel âge, l'auto-éducation est terminée. 45 ans. Ah non, pas du tout. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on voit que dès qu'on touche le point de vue moral, on touche un abîme infini. Je ne peux jamais dire que je suis suffisamment autonome dans ma personnalité, suffisamment responsable dans ma personnalité. Ma personnalité, elle se fait tout le temps. C'est quelque chose que tout le temps je suis là. Alors, le problème aujourd'hui, et je dis bien aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver quelle est l'expérience qui fonde une philosophie éthique. C'est la question que je suis posée depuis 30 ans. Et c'est la question qu'on doit se poser. Quand j'ai vu combien la morale kantienne, a rejoint la morale stoïcienne, a rejoint la morale de Port-Royal, et elle dure toujours. À Fribourg, le professeur de philosophie morale est kantien. Aujourd'hui. Pour un Français, c'est très drôle. Si la morale européenne doit être kantienne, pauvre Français, à l'école de Kant, il faut faire ça. Je crois que la morale kantienne, c'est un ersatz de la morale chrétienne. C'est une laïcisation de morale chrétienne. C'était très étonnant. C'est une morale de l'impératif catégorique. C'est-à-dire que vous avez un réveil dans votre conscience qui sonne à certaines heures. Et vous l'êtes bien remonté. Alors vous avez un règlement de vie automatique. Et vous devez faire ça. Tous les jours. Tant de temps de travail. Tous les jours. Tant de temps de repos. Tous les jours. Tant de temps de manger, tous les jours, tant de temps de récréation, tous les jours, et ainsi de suite.
espèce de règlement impératif qu'on avale. Ça ne doit pas être très drôle quand il sentait son chien tous les jours à la même heure, paraît-il. Parce qu'il vivait très très nettement de sa morale. C'est Clavel qui dit, hein, j'ai eu une telle difficulté à entrer dans Kant que je n'en suis jamais sorti. Il dit ça pour son examen d'agrégation. J'ai une telle difficulté. Et même quand il était converti, il n'a pas compris que sa conversion lui permettait de dépasser Kant et rester conscient. Très étonnant, ça. La morale de Kant, la morale de Sartre, oh, diamétralement opposée. La morale de Nietzsche, tout à fait autre chose. La morale épicurienne, elle existe toujours. C'est la morale de la jouissance, du plaisir. Mais je crois que les grandes formes de morale qu'on trouve dans la philosophie grecque sont présentes aujourd'hui. La morale du bonheur, la morale contemplative de Platon, la morale épicurienne, la morale stoïcienne. Et en plus, aujourd'hui, peut-être, la morale de Sartre, la morale de la situation. Mais c'est très proche d'une morale stoïcienne. Alors, nous devons chercher quel est le point de départ d'une philosophie éthique. Après avoir beaucoup cherché, il me semble que c'est l'expérience de l'amour d'amitié. Pourquoi ? La morale n'apparaît que lorsque l'homme est capable de poser un acte d'amour volontaire. Tant que je n'ai pas posé un acte d'amour volontaire, je ne sais pas ce que c'est que la morale. J'imite. Mais je ne suis pas du tout une personne responsable de ses actes. La responsabilité naît à partir de l'amour et d'un lien d'une personne avec une autre personne. Or, le philosophe sait que découvrir l'aspect éthique de l'homme, l'aspect moral de l'homme, c'est découvrir ce qu'il y a de plus radical en lui et aussi ce qu'il y a d'ultime. L'éthique n'existe que pour l'homme. C'est propre à l'homme. Et si l'éthique n'existe qu'à partir de l'amour, l'éthique n'existe qu'à partir de la finalité. Il faut donc découvrir l'expérience qui me met en présence d'un amour volontaire, spirituel, le plus parfait. C'est dans l'amour d'amitié, grâce à la réciprocité de l'amour d'amitié, que je découvre de la manière la plus nette, la plus précise, ce que représente l'amour spirituel de personne à personne. C'est pour cela que l'expérience typiquement humaine de l'amour d'amitié va me permettre d'élaborer une philosophie morale, une philosophie éthique. Mais comprenez bien, ce point de départ demande d'être très critiqué, c'est-à-dire d'être très réfléchi, pour voir qu'il n'y en a pas d'autre. Alors, réfléchissez, parce que la philosophie, c'est soi-même qu'on la fait. Réfléchissez, quels sont départ pour vous de vos actes qui impliquent l'aspect moral, l'aspect de la responsabilité. Un acte qui est parfaitement humain. Il faut d'abord bien préciser la différence qui existe entre ce fatchéré et l'adulé. Autrement dit, ces deux développements humains. La réalisation d'une œuvre. Il y a des personnes qui sont très efficaces. Ils réalisent tout de suite. Il y a des personnes qui ont un sens moral très développé et d'autres très peu développés. Et ça, ça dépend de la première éducation qu'on a reçue. Ça, c'est sûr. Parce que ça a orienté les deux grandes orientations qu'on a en nous. Nous sommes tous capables de travailler. Nous sommes tous capables d'être responsables. Je me souviens, je vous dis ça, c'est parce que c'est à partir d'expériences que nous pouvons essayer de comprendre ça. Il y a quelques années, un gros chef d'entreprise, que je ne connaissais pas, mais il y avait des amis qui le connaissaient, m'a demandé de le voir. Il m'a posé cette question. Je suis chef d'entreprise. Je me pose certains problèmes. En tant que chrétien, est-ce que le seul fait que mon industrie marche bien, qu'il y a du profit, que je peux dépasser les concurrences sans vouloir écraser tout le monde, est-ce que c'est suffisant? J'ai posé la question, m'a-t-il dit, à tel théologien. Il m'a dit oui. Et moi, en tant que chef d'entreprise, ça ne me suffit pas. Et en tant que chrétien, encore moins. Qu'est-ce que vous dites? Alors, évidemment, j'ai répondu que ce n'est pas suffisant. Puisque on ne peut pas acheter le travail des hommes en vue du résultat, en vue du profit. Un chef d'entreprise engage des hommes. Il y a un contrat de travail où on fait ce contrat non pas avec des outils, non pas avec des machines, mais avec des hommes. Et des hommes engagés dans la vie, qui sont peut-être pères de famille, qui ont peut-être des difficultés au point de vue santé. Il y a des quantités de données comme celle-là, c'est avec un homme qu'on travaille. Donc il y a une coopération avec les hommes. Et donc, il y a un aspect moral qui intervient. Une usine n'est pas uniquement mesurée par l'efficacité. Elle implique cela. Une usine implique l'efficacité, ça implique le travail, donc ça implique l'efficacité. Mais il n'y a pas que cela. Et donc il y a un point de vue moral qui intervient. Donc on est en face du problème des rapports entre le fatchéré et l'adchéré, entre l'activité artistique de réalisation d'efficacité et le problème d'amour, d'amitié, de relations humaines, interhumaines, où l'aspect éthique intervient. Donc vous voyez, c'est un problème très concret. Et c'est un problème qui se pose tout le temps aujourd'hui. Et je lui ai dit, alors il m'a dit, ce serait intéressant que vous fassiez des cours de théologie là-dessus. Alors j'ai dit, non, je vous ferai d'abord des cours de philosophie là-dessus. Parce que vous n'avez pas réfléchi sur ce que représente le fatchéré et l'adchéré. Est-ce que vous avez réfléchi là-dessus? Il m'a dit non. Et vous êtes responsable d'une grosse entreprise. Et vous êtes la responsabilité avec des hommes. Et vous n'avez pas réfléchi là-dessus. Vous devez réfléchir là-dessus. Et à partir de là, on s'est mis à réfléchir avec un groupe de chefs d'entreprise sur la durée et le fin de durée et la connexion des deux. Donc, vous voyez, c'est là où le point de vue philosophique est nécessaire. Qu'est-ce que c'est qu'une activité morale? Qu'est-ce que c'est qu'une activité éthique? Qu'est-ce que ça représente? Quelle est la différence entre le travail et l'amour? Aimer quelqu'un. Quand vous aimez quelqu'un, est-ce que votre souci principal, c'est de le transformer? Il y a certaines personnes qui sont comme ça. Ah, j'aime cette personne. Oh, je vais la transformer à mon modèle, évidemment. À partir de là, je pourrais l'aimer. Quand on aime quelqu'un, on aime cette personne telle qu'elle est, dans sa profondeur, avec son originalité propre, avec son caractère propre. On essaie, si elle n'est pas morale du tout, si elle n'a aucun sens éthique, de la rendre un peu plus humaine. L'amour d'amitié permet de s'auto-éduquer de façon remarquable. C'est souvent du reste à partir d'amour d'amitié qu'on peut s'éduquer le mieux et qu'on peut prendre un sens beaucoup plus aigu de ce que représente l'activité de la réalisation artistique. On a des exemples constants là-dessus. Je vous donne un petit exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. C'était un garçon que je connaissais, intelligent, qui faisait de la philosophie à Paris. Très très intelligent. Je l'avais une facilité de travail énorme, point de vue philosophique. Il fait sa licence, il la passe facilement. Puis à partir de là, il commence à gagner sa vie. Alors qu'il pouvait très bien pousser plus loin et faire un doctorat. Là, je dis, mais pourquoi vous ne faites pas un doctorat? J'en ai assez. Ça se sent. Je dis, j'ai réalisé quelque chose. Là, je dis, vous avez tort. Vous êtes jeune, vous pouvez encore le faire. Il rencontre une jeune fille et il l'aime. Petit projet de mariage. Cette jeune fille était aussi très intelligente, mais beaucoup plus exigeante que lui. Ce qui arrive souvent. L'homme est beaucoup plus dilettante, beaucoup plus. La femme l'est beaucoup moins. Et tout de suite, elle lui a dit, mais il s'aimait. Je voudrais quand même que tu pousses un peu plus tes études. Tu peux le faire. C'est pour toute ta vie. Il s'est mis à préparer son doctorat. Vous voyez, la durée, donc l'amour d'amitié, sur le travail. Il y a des inter-influences constantes. Et il y a juste l'inverse aussi. Le gosse qui revient d'un cours de mathématiques et qui dit à sa mère, le professeur de mathématiques est un imbécile. Il ne sait pas ce qu'il dit. Parce qu'il dit 1 et 1, 2. Mais c'est pas ça, 1 et 1, 1. C'est la mère qui m'a raconté ça. Ce que j'aurais pas inventé, moi. Le professeur de mathématiques, c'est un imbécile. Alors la mère va voir le professeur de mathématiques. Le professeur de mathématiques dit tout de suite, votre gosse, il comprend rien en mathématiques. C'est un imbécile. Elle a très bien compris qu'il y avait une espèce d'antinomie personnelle entre les deux. Si vous n'aimez pas votre professeur de mathématiques, vous n'aimerez pas les mathématiques. Si vous aimez votre professeur de philosophie, vous aimerez la philosophie. Ça, c'est tout l'art du professeur. Se faire aimer de ses étudiants. Et à partir de là, ça glisse. Parce que c'est une œuvre humaine d'enseigner. Il y a un contact humain. Au seul joueur, on distingue les deux espèces de professeurs. Ceux qui aimaient leurs cours et ceux qui aimaient leurs étudiants. Il y a des professeurs qui aiment leurs cours. Ils aiment leurs cours parce que ça les aide à chercher. Et à partir de là, ils feront un bouquin. Ils s'en fichent des étudiants. Tandis qu'il y a des professeurs qui aiment les étudiants. On fait œuvre commune avec eux. Et si on fait œuvre commune avec eux, il s'établit une amitié. L'amitié entre maître et disciple. C'est une amitié. Oui, la durée qui pousse. C'est extrêmement intéressant pour nous de discerner un petit examen de conscience philosophique aujourd'hui. petit examen de conscience philosophique aujourd'hui. Discernez dans vos activités de votre journée ce qui est de l'ordre du facere et ce qui est de l'ordre de l'agere. Ce qui relève de l'activité artistique, transformation de la matière, et ce qui relève au contraire de l'amour d'amitié. Les deux sont très liés. Écoutez un cours. Est-ce que c'est du facere? Est-ce que c'est de l'agere? Si vous écoutez un cours parce que vous devez le faire, je dois écouter ce cours, c'est rasoir, mais je dois l'écouter. Alors l'agere l'emporte. Si vous faites une recherche de vérité, l'intelligence est éveillée. Et à ce moment-là, vous désirez écouter le cours, pas uniquement parce que vous devez le faire. Vous voulez être plus intelligent. Vous voulez dominer davantage cette recherche philosophique. Alors, vous l'écoutez autrement. Et dans toutes vos activités, vous trouvez toujours les deux aspects. C'est une analyse philosophique, hein. Le facere et l'agere. Donc, je crois qu'on peut dire que c'est l'expérience de l'amour d'amitié qui va me permettre de renouveler et de reprendre toute la philosophie de l'éthique de la manière la plus réaliste qui soit, et montrer par le fait même que ce que dit Kant est intéressant. La morale du devoir, c'est intéressant. C'est un peu trop stoïcien. C'est un peu trop partiel. Ça ne peut pas être la vraie morale. C'est une morale en temps de crise. En temps de crise, on sauve ce qu'on peut sauver. Et on peut sauver cette conscience du devoir. Mais vous comprenez très bien, le devoir, ça repose sur quoi? Sur la finalité. Mais le devoir n'est pas une finalité. Je ne travaille pas pour le plaisir de travailler. Je fais cela non pas pour le plaisir, parce que je dois le faire. Oui, ça me donne une certaine satisfaction, mais ça ne va pas très loin. L'éthique et la philosophie éthique reposent sur la découverte de la finalité. Ce pourquoi je suis fait. Et la première finalité que je découvre, c'est dans l'amour d'amitié. Je choisis tel ami, et cet ami devient mon bien. Et cette personne que je choisis dans mon ami est capable de donner un sens à ma vie. Notre vie humaine ne prend son sens que lorsque j'ai une finalité que je recherche. Vous savez bien que c'est le grand problème aujourd'hui. Un psychanalyste freudien me disait que quand le malade est sur le divan, et que le psychanalyste est là pour l'écouter et pour l'aider, c'était un freudien. Selon la méthode freudienne, le médecin doit être tout à fait en dehors. Paraît-il, je n'ai pas l'expérience, mais c'est lui qui m'a dit ça. Paraît-il qu'à un moment donné, le moment le plus foncier de l'analyse, ce mec qui est sur le divan pose cette question. Docteur, croyez-vous en l'homme? Et selon la méthode freudienne, le psychanalyste se tait. Alors quand il m'a dit ça, moi j'ai bondi. Je dis c'est criminel. Il m'a dit pourquoi? C'est criminel. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de se noyer, vous dites faites des exercices de nage. Et nécessairement il se noie. Alors il m'a dit, alors qu'est-ce que vous diriez? Je veux réfléchir un peu à ce que je dirais. J'ai jamais été été dans cette situation-là. Mais ce que vous me dites, c'est très intéressant. Parce que je crois que c'est en effet très intéressant. Parce que toute angoisse vient qu'on a perdu le sens de notre vie. Qu'on a perdu la finalité. C'est ça l'angoisse. Alors on est angoissé, on ne sait pas où on va. On tourne en rond. Alors je lui ai répondu. Je répondrai. Tant pis pour la méthode. La méthode n'est pas un absolu. La méthode est au service de ce qu'on cherche. Et donc briser l'absolu de la méthode, c'est déjà un progrès. Et comprenez que c'est pas l'acte que vous devez regarder, pas la méthode. Quand quelqu'un pose cette interrogation, vous devez répondre. Et vous devez répondre, je crois en l'homme qui a un but dans sa vie, qui a découvert une finalité. Alors sa vie prend un sens. Puis j'ai essayé d'expliquer. 6 mois après, ce même médecin, puisque j'avais un dialogue avec lui et avec plusieurs autres psychanalystes, freudien, m'a dit, ah père, c'est extraordinaire ce que vous avez dit. J'ai dit quoi, il y a 6 mois. Alors il m'a répété. Il m'a dit, j'étais devant cette situation. J'ai accepté délibérément de faire une faute à la méthode. Et j'ai dit, je crois en l'homme qui a un sens à sa vie, qui a une finalité dans sa vie, qui cherche quelque chose. Eh bien, c'est exactement ce que vous aviez dit. C'était comme une bouée de sauvetage. Il a saisi ça. Et l'analyse a été bien plus rapide qu'à partir de là. J'ai vu cet homme qui sortait de son angoisse. Parce qu'il savait qu'il y avait une possibilité de trouver un sens à sa vie. Alors il m'a dit, c'est extraordinaire ça. Il m'a dit, oui, c'est confirmé. Ce que je vous ai dit, ça m'intéresse beaucoup de voir ça. Évidemment, pour Freud, il n'y a pas de finalité. Comment voulez-vous qu'un psychanalyste qui ne sait pas la finalité de l'homme puisse remettre un homme debout ?